Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro. Je suis là pour les 30 prochaines minutes. Vous écoutez C'est bon pour la santé sur Canal M. En août dernier, la FIC lançait une ligne téléphonique qui visait à dénoncer les situations dites inacceptables dans le milieu de la santé, dans le réseau de la santé. Ça a duré pendant 3 semaines et la population était invitée à téléphoner à cette ligne-là pour s'exprimer sur les observations, sur les cas vécus également. Et demain, le bilan officiel de cette ligne téléphonique là sera annoncé. En primeur, tout à l'heure, on aura Régine Laurent, elle, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, pour nous en parler davantage. Et puis d'abord, vous dire que pour la plupart d'entre nous, la musique, ça fait partie intégrante de notre quotidien, de notre réalité. Et c'est la même chose pour les enfants, hein, et ce, dès leur plus jeune âge. Et même dans le ventre de la maman, ça commence autant les sons, les vibrations, les voix, tout ça. Bien, ça contribue au développement de l'enfant sur plusieurs facettes. Ça a aussi des effets bénéfiques sur sa santé, autant physique que psychologique. Et ça peut servir à nourrir ses habiletés sociales, ses habiletés affectives. Et ça, ça devient très, très intéressant parce que ça peut bien accompagner des enfants qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme. Pour nous en parler davantage, je reçois Mohamed Ghoul, intervenant socioculturel, formateur, musicien. Mohamed Ghoul, bonjour.
Bonjour Marianne.
Vous arrivez de loin, là, l'Abitibi. Vous avez fait toute cette route-là pour nous.
Exactement. Pour d'autres projets, mais aussi pour vous.
Oui, parce qu'on va en parler. Vous avez de nombreux projets que vous menez de front, Mohamed. Tout d'abord, vous avez développé par vous-même une méthode à travers les années qui s'appelle la méthode de la sociodynamique d'intégration par l'art, méthode SDIA, où vous initiez les jeunes autistes à la musique. Votre démarche a même fait l'objet d'un documentaire qui s'intitule « L'autisme au tambour » réalisé par Yves Langlois. Et on apprenait dans ce documentaire que souvent l'initiation de la musique pour les enfants autistes, ça passe par les percussions. Pourquoi cet instrument-là?
Par son accessibilité. C'est une guitare, ça demande une certaine motricité. Les percussions, ouais. On arrive, on frappe. On peut ne pas parler le même langage. On bouge, on vit, on parle en rythme. Donc, c'est assez accessible. Je pense que c'est la première raison. Deuxième chose, c'est que lorsqu'on joue, on est en groupe. Donc, il y a un effet direct sur l'appartenance à un groupe ou le début d'appartenance, de sentiment d'appartenance. Donc, voilà un petit peu les... Et ça développe la concentration, bien évidemment, dès les premiers instants.
Oui. On parle ici de djembé, de tam-tam.
De djembé, congas, drum, tambourine, ben oui. Clave, cloche. Voilà. Puis après, on y va avec le micro aussi. Voilà.
Les enfants ou les adultes, hein, parce que vous accompagnez aussi des adultes, quel est leur profil? Ils vivent avec l'autisme, mais aussi, je pense, avec peut-être d'autres réalités.
Oui. Les personnes que je rencontre, les élèves qui viennent dans nos ateliers, bon, on leur a donné une forme de définition. On parle de trouble d'intégration. Lorsqu'une personne est isolée socialement, c'est surtout le portrait. Après, qu'il soit autiste, déficient intellectuel, trisomique, pour nous, c'est vraiment pas quelque chose qui met un frein à la rencontre, bien au contraire.
Mm-hmm. Autant des enfants que des adultes.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez observé qu'un enfant qui vit avec, bon, que ce soit un TDAH ou avec l'autisme, s'il est en contact avec la musique dès le plus jeune âge, son développement sera plus favorisé?
Oui. Ce qu'on observe, c'est une facilité à rentrer en contact avec les autres. Moins d'isolement. Ça, c'est quelque chose de très visible, très rapidement. Puis le goût de partager. De se découvrir à travers l'autre aussi. Donc, je pense que ce sont des éléments importants.
L'estime de soi aussi également, de constater qu'on arrive à accomplir quelque chose.
Exactement. Lorsqu'on est en situation de jeu, les sens sont tout en éveil. La vue, l'écoute, le goût du social, hein, c'est une métaphore, mais il y a un goût, c'est un goût aussi. Le goût du bonheur, entre guillemets, là, qui est très présent aussi. Donc, oui. l'estime de soi était quelque chose de très présent.
Pour dire aussi que les percussions, ça aime, ben, tous les instruments, là, j'imagine, je ne suis pas musicienne, mais les percussions, ça amène quelque chose aussi dans les vibrations. J'imagine
Exactement.
Que ça, ça a un impact aussi.
C'est sa fonction première. Lorsqu'on met l'instrument contre nos, entre nos jambes, les vibrations, on est fait à 80% d'eau, donc ça vibre énormément. Et au niveau des synapses, au niveau des neurones, on envoie une information constante. Mm-hmm. Ce qui est des fois difficile chez les personnes autistes de recevoir une information constante et agréable au niveau de l'environnement.
Oui. Mohamed, comment avez-vous créé cette méthode-là?
Le mouvement est parti de Paris, où je travaillais avec l'équipe du psychiatre Moïse Assouline, qui est dans le documentaire également. Où la culture était, on voulait que la culture soit accessible à tous. C'est surtout l'idée, c'est ça. C'est que les écoles de musique s'ouvrent à la différence. Hein. Et donc, c'est parti là-dessus. Mais en France, la culture n'était pas un projet qu'on voulait formaliser.
Ouais.
Donc, les relations entre Paris et l'Abitibi, d'où la raison. le centre du docteur Moïse Assouline était en lien avec le centre de réadaptation de la maison à Rouyn-Noranda, mm-hmm. À l'époque avec Jean-Claude Bauchemin. Et donc, c'est depuis 1985 qu'il y a des rencontres culturelles comme ça entre ces deux centres. Et moi, je suis arrivé ici la première fois en 1998.
Oui, parce que vous ne faites pas l'aller-retour Paris-Rouyn-Noranda.
Non, non.
Plus maintenant.
Non, on s'est installé là, dans la nature. Voilà. Et donc, est arrivé ici, je dirais la mentalité nord-américaine où on formalise, où on aime bien créer des programmes. C'est un peu plus présent en Amérique du Nord et en Amérique, je pense, centrale aussi. Et en Europe, non. Donc ici, j'ai approché des chercheurs à l'époque, André Gagnon et Suzanne Dugré, qui ont trouvé qu'il y avait matière à faire une recherche, à regarder si ce que je faisais était dû à mon côté hyperactif, ou y avait-il une structure, y avait-il un programme, y avait-il des objectifs mesurables, quantifiables. Et ça a avéré que oui. Donc voilà, la recherche a été faite entre 2004-2006. Les résultats ont été livrés en 2007. Et puis voilà, donc à partir de là, on a pu voir qu'il y avait un effet, qu'on pouvait mesurer, qu'on pouvait calibrer l'intervention. Ce qui est important de préciser, c'est que toutes les interventions sont filmées.
Ah oui.
Nous avons une archive de 13 500 heures à peu près depuis 2001. Aussi bien en hôpital psychiatrique que dans les écoles, que dans les centres communautaires. Je travaille aussi avec la maison de la famille, la structure pour les enfants. On fait la stimulation précoce pour les 3-5 ans. Et on fait des ateliers aussi parents-enfants. Donc, c'est vraiment d'offrir l'art et la culture accessible, une plateforme, non pas seulement sous forme de thérapie. L'effet thérapeutique est là dès qu'on écoute de la musique ou dès qu'on en fait,
oui.
Mais plus comme outil de communication. Créer une interface de communication pour que les personnes puissent s'outiller eux-mêmes, créer eux-mêmes leurs outils.
Oui.
L'idée, ce n'est pas leur imposer une façon de jouer. C'est plus leur montrer qu'on peut jouer comme ça, puis qu'à partir de là, créez vous-même votre langage.
Et pour des gens qui n'iraient peut-être pas par eux-mêmes vers des cours de musique ou bon, vers la musique, et aussi, vous le dites bien, Mohamed, c'est structuré. Il y a quand même des facettes que vous respectez. Là, je pense qu'il y a trois sphères en particulier.
Oui, la communication, et les interactions sociales et l'intégration de la communauté par le biais de spectacles ou de présentations.
Ah oui, donc voilà. Il y a l'aspect du spectacle.
Tout à fait.
Ça, pour un jeune autiste, c'est quand même quelque chose à gérer, le contact avec le public. Est-ce que vous les préparez à ça?
Oui, parce qu'on fait des simulations. Exemple, pour partir en France, on a tenté un vol régional pour voir un peu comment ils allaient réagir. Et à partir de là, on fait beaucoup de situations, on fait des spectacles à l'interne pour voir un petit peu l'effet. Donc on invite la famille, on invite l'entourage pour voir un peu comment ils réagissent. Mais pour certains, pas besoin de préparation, ils arrivent sur scène et puis c'est leur environnement, c'est assez impressionnant à ce niveau-là aussi. Donc ça dépend de la personne, on s'adapte vraiment à la personne, on arrive dans l'atelier sans aucune prétention de leur apprendre quelque chose.
Ouais.
C'est une rencontre avant tout, avec des outils de communication qui est la percussion. On ne cherche pas à en faire des musiciens. Il y a plein de jeunes qui font de la musique.
C'est pas ça l'objectif.
L'objectif, c'est pas ça. Mais si certains en font ou veulent le devenir, ben, on les accompagne là-dedans.
Mm-hmm. Donc, le contact se fait tout naturellement comme ça, sans pression. Et après, il y a tout le volet technique pour faire l'apprentissage de l'instrument.
Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a des rencontres de groupe et puis des rencontres individuelles. On filme pour pouvoir justement analyser. On a des outils qui nous permettent d'analyser où l'intervention était bien faite, où l'apprentissage était bien fait, où... Lorsque ça ne fonctionne pas, c'est l'intervenant qui est remis en question. Ce n'est pas le jeune, ce n'est pas l'adulte.
Mm-hmm.
Donc, à partir de là, on peut, après une cinquantaine d'exercices rythmiques de base, puis après, on peut en créer d'autres en fonction des besoins.
Est-ce que les enfants, bon, dans le cas où vous intervenez auprès de jeunes autistes, sont amenés à contribuer à tout l'aspect créatif du spectacle?
C'est principalement ça qui est intéressant. C'est là qu'on voit si ça fonctionne ou pas. Parce que si on leur impose une création... on devient comme... c'est comme si on peignait le tableau à leur place. Mm-hmm. Donc, sur scène, on veut vraiment qu'ils s'expriment avec leurs mots, avec leur histoire. Donc, ils ont des particularités. Puis qu'on retrouve sur scène. Hein. C'est vraiment quelque chose de... Ils font partie de la création.
Est-ce que vous êtes parfois confronté, Mohamed, à des difficultés?
Oui. Souvent, lorsqu'on est confronté à des difficultés, c'est lorsqu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la relation. C'est un travail vraiment de proximité avec la famille. Mm-hmm. Et si on ne travaille pas avec la famille, on a beaucoup de difficultés à pouvoir intégrer les jeunes. Si la famille n'embarque pas dans ce processus de développement socioculturel, ça ne fonctionne pas. Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est souvent autour de la durée de l'activité. Des fois, ça peut être trop long ou des fois pas assez long. Donc, c'est avec le temps qu'on peut observer.
C'est possible de s'adapter, ça, aux exigences de chaque enfant?
Ah, c'est l'objectif. Ouais. C'est pas possible. Il faut atteindre cet objectif-là.
Parce que j'imagine que la difficulté, c'est de s'adapter de façon individuelle à une personne qui vit une réalité X, Y, et après ça, la collaboration avec le groupe également.
Tout à fait. L'approche vise à développer des outils de communication par élève, mm-hmm. pour après les intégrer en groupe. Il y a une évaluation individuelle qui se fait au début, puis après aux besoins. Et si un jeune a besoin de se perfectionner, là on le prend en charge individuellement, puis on travaille les techniques pour qu'il puisse intégrer le groupe et se sentir à l'aise. L'idée, c'est pas de vivre un échec non plus. C'est pas d'arriver que ça soit trop compliqué, trop difficile. Donc il y a vraiment, mais les exercices sont quand même très basiques. Juste taper le tempo pour commencer. Mm-hmm. Il y a des jeunes qui peuvent rester 3-4 mois là-dessus, puis ça leur suffit. Puis après intégrer l'autre main. Donc déjà, on travaille la motricité globale et fine. Donc voilà.
Et les adultes, les parents ou en fait tous les adultes signifiants sont amenés bien sûr à assister au spectacle à la fin de l'atelier, mais est-ce qu'ils peuvent aussi assister aux ateliers eux-mêmes?
Justement, je travaille avec l'association APDI TED de Montréal, sous la direction d'Isabelle Moliette, et on a fait des ateliers pour parents seulement, frères et sœurs d'enfants autistes, et un mélange parents-enfants aussi qu'on va mettre sur place. Donc, c'est vraiment un outil qu'on veut démocratiser.
Et qui est pour tous, on s'en rend
compte. Oui, pour tous.
Vous collaborez aussi, Mohamed, avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et ils se sont intéressés à votre démarche, en fait.
Oui, les premiers chercheurs, c'était André Gagnon et Suzanne Dugré. Mmh. Et actuellement, c'est Katia Quinchon, professeure en psychoéducation, responsable de la maîtrise en psychoéducation. Et on fait ça en collaboration avec l'Université d'Ancona, en Italie.
Oui, OK.
La région des marges. Qui ont passé une loi pour l'accès à l'art et à la culture pour les personnes autistes. Mmh. Et donc, le projet, c'est d'ouvrir un centre de formation international avec des locaux ici à Montréal où on habite bien. En tout cas, on va voir, on est mobile comme centre de formation, mmh. et aussi en Italie, et faire des rencontres internationales entre les jeunes, mmh. québécois autistes et les jeunes ou adultes italiens pour pouvoir développer ce réseau culturel. Oui. On veut intégrer le réseau culturel pour tout le monde actuel. On ne veut pas créer un ghetto, mm-hmm. on ne veut pas s'enfermer, mais on veut offrir ce service-là dans les maisons de la culture en Italie, des choses comme ça.
Bien sûr, mon objectif n'est pas de comparer, mais bon, vous voyez ce qui se fait peut-être en Europe du côté de l'Italie en ce moment, ce qui se fait au Québec, autant en région qu'ici à Montréal. Quelle est la part qu'on fait à la différence? Est-ce que nous, on est un petit peu plus avancés? Est-ce qu'on peut apprendre des autres? On se situe où?
Moi, je dirais que le Québec... Pour mon expérience, on laisse les gens créer un peu plus qu'en Europe. Je dirais qu'en Europe, c'est quand même assez cloisonné. J'ai quitté Paris à cause de ça. Je travaillais avec une équipe et à chaque fois que je voulais faire ce que je fais ici, on me disait il faut attendre, c'est pas le bon moment, tout ça. Les politiques ne sont pas encore bien placées. Tandis qu'ici, je suis arrivé, la seule exigence qu'on dit, Mohamed, c'est les adultes. Les enfants autistes, en 2001, 2000, quand je suis arrivé, on dit les enfants autistes sont pris en charge dans le système scolaire. C'est très compliqué d'intégrer le système scolaire à l'époque. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Et donc, j'ai pris les adultes et on a vu les effets chez les adultes. Là, actuellement, ça fait 3 ans que je travaille dans une école qui s'appelle Sacré-Cœur à Rouyn-Noranda, où j'ai 5 classes d'enfants à cheminement particulier, autistes, déficients intellectuels, on parle de 30 d'élèves, mm-hmm. que je suis toute l'année.
Oui. Pourquoi l'Abitibi au départ, Mohamed?
Justement, c'est le lien entre la structure de Paris et mm-hmm. le centre de réadaptation de la maison. Et donc, au Québec, à l'époque, et même maintenant, le centre de réadaptation avait à charge les autistes, tandis que dans le reste du Québec, c'était les CRDI, les centres de déficience intellectuelle, qui avaient l'autisme. Donc, l'Abitibi développait son propre réseau de contacts autour de l'autisme à travers le monde.
Mm-hmm. Bon, vous avez travaillé autant avec une clientèle plus adulte, enfant. Est-ce que vous voyez les différences? Est-ce que l'approche avec un adulte qui vit, par exemple, avec l'autisme ou avec une déficience intellectuelle se fait différemment?
Oui, un enfant est très curieux, a besoin vraiment d'un buffet d'activités, tandis qu'un adulte est beaucoup plus centré, a beaucoup moins le goût de bouger énormément et est beaucoup moins actif ou hyperactif. Chez les enfants, il y a vraiment un mouvement, là, il faut vraiment suivre, et des courts ateliers. Chez les adultes que je suis, on peut faire des journées entières d'ateliers.
Ouais.
Un quart d'heure, pause, un quart d'heure, pause, mais on peut faire ça toute la journée. Tandis qu'un enfant, une heure et demie, deux heures, à un moment donné, ça commence à devenir trop, puis il veut passer à autre chose.
Donc, c'est la plus grande difficulté.
Oui, oui,
un peu hyperactif comme vous, finalement.
Exactement.
Ben, peut-être que ça vous sert, parce que ça vous permet de mener de front toutes ces activités, ces conférences. D'ailleurs, vous serez au Salon de l'autisme, 3 octobre.
Exactement.
Votre conférence portera sur votre méthode.
Exactement. Oui, oui, sur l'approche et sur ses développements. Et on ouvre un centre de formation pour former soit des parents, soit des animateurs, soit des intervenants, mm-hmm. des profs d'école. À partir de janvier, il va y avoir des sessions qui vont être offertes pour former les intervenants et créer ce réseau de l'intégration par l'art.
Parce que vous n'êtes pas le seul à pouvoir offrir ces ateliers de la méthode SDIA.
Pour l'instant, si.
Ah oui, d'accord, mais là vous travaillez
en collaboration.
En collaboration.
On veut formaliser cette méthode-là aussi avec les chercheurs. C'est-à-dire que j'ai toujours été intéressé à ce que les chercheurs ont un regard sur la démarche, parce que partir de Paris, arriver en Abitibi avec Gadjambé, ça peut être très exotique un peu là. Donc, puis dire qu'on va aider les autistes à s'intégrer en tapant sur des tam-tams, c'était pas vendu d'avance.
Au départ, fallait que vous... La place était tout à fait. Hein,
oui, exactement. Oui. Et donc maintenant, j'ai pris l'habitude de travailler avec des chercheurs, puis les chercheurs se sont intéressés à la démarche. On veut être sûr de la précision de la formation qu'on va donner.
Mm-hmm. Et vendredi aussi, vous allez donner une conférence.
Oui, à l'Université de Sherbrooke, au Symposium du X Fragile, avec l'association X Fragile Québec, avec le docteur François Carbin, exactement, à 8h30.
Eh bien, Mohamed Ghoul, c'était vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui, de vous recevoir. On va vous suivre. On vous souhaite aussi bon courage là, pour toutes les activités qui s'en viennent. Est-ce que vous avez un site, quelque chose pour...
Oui, le site sera ouvert d'ici une semaine ou deux. Maximum, ça s'appelle approche.com.
D'accord.
approsh.com.
Je le rappelle, vous êtes intervenant socioculturel, formateur, musicien et vous serez du côté du Salon de l'autisme le 3 octobre. Mohamed Ghoul, merci.
Merci Marianne.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Jean Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec et on est là pour parler ensemble de la ligne d'aide lancée par la FIC au mois d'août dernier, une ligne téléphonique pour dénoncer les situations inacceptables dans le réseau de la santé. C'était un appel à la population.
Oui.
D'ailleurs, il y avait un slogan assez particulier, « Toute vérité est bonne à dire ».
Tout à fait.
Et l'objectif, c'était de combattre, vous appelez ça, vous, l'omerta dans le réseau de la santé.
Mm-hmm.
Est-ce que le grand public a bien réagi à cette initiative?
Oui, le grand public a réagi vraiment. Et demain, on va finaliser et faire le point sur cette ligne-là. Mais je vous dirais qu'il y a eu énormément d'appels, plus de 1000 appels et courriels. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est que les gens nous disaient beaucoup merci parce que c'était une façon accessible de parler, d'être écouté, de parler de leurs problèmes, de nous expliquer aussi. Je vous dirais que près de la moitié de ces appels-là, c'est des problèmes d'accessibilité au réseau de la santé.
Ouais.
Et nous, on a des solutions qu'on propose depuis des années. Alors, elles existent, ces solutions-là. Donc, on espère que le gouvernement va écouter la population.
Oui, et ça venait de différents constats, ça, la mise sur pied de cette ligne téléphonique.
Oui, parce que chaque fois qu'on faisait état de situations inacceptables ou d'impact de coupure, le gouvernement était ou dans la négation ou il nous disait ben c'est peut-être anecdotique, ça ne veut pas dire que ça existe partout au Québec. Donc, on s'est dit, bon, on va mettre sur pied cette ligne-là et ça va permettre à l'ensemble de la population, peu il se trouve, peu à l'endroit où il se trouve au Québec, de pouvoir nous appeler, parler et nous expliquer leurs problèmes. Alors, c'est ça que ça a donné et on l'a tenu, cette ligne-là, pendant trois semaine. Mm-hmm. Et je vous dirais qu'il y a des journées, même si la population pouvait parler à quelqu'un de 9h le matin à 9h le soir, mais on avait aussi des appels qui venaient parce que les gens travaillent sous différents horaires. Il y avait des courriels qui rentraient la nuit, des appels qui rentraient la fin de semaine. Et vous parliez d'Omerta.
Ouais.
Beaucoup de nos membres aussi nous ont appelés pour dire ben bravo à cette ligne-là parce que, effectivement, si on le dénonce, ben l'employeur, pour elle, c'est des conséquences très graves, c'est-à-dire suspension sans salaire ou congédiement. Alors, ça a servi autant à la population, mais aussi à nos membres.
Oui, c'est ça, aux spécialistes de la santé qui,
oui,
eux aussi, vivent les contre-coups de tous ces changements là, en ce moment dans le réseau de la santé.
Tout à fait.
Oui. Bon, on l'a dit, la population a bien réagi à cette ligne téléphonique, c'est-à-dire que les gens ont été amenés à participer, l'ont fait. Bon, qu'en est-il du côté du ministre Barrette?
Bien, comme je vous dis, on va demain vraiment sortir et faire le bilan de cette opération-là. Alors, on espère que le ministre Barrette et son gouvernement vont vraiment écouter la population et agir pour vraiment aller sur des solutions pour régler certains problèmes. Parce qu'il y en a des problèmes qu'on peut vraiment régler. Par exemple, les problèmes d'accessibilité. Nous, on participe à une recherche action, comme vous le savez, avec une clinique tenue par des professionnels de la santé et en soins à Québec, où il n'y a pas de médecin sur place et où elles ont pu, effectivement, et elles peuvent, par exemple, infirmières praticiennes, régler des problèmes de santé mineurs, par exemple une otite, diagnostiquer l'otite, prescrire les antibiotiques qu'il faut et les parents repartent à la maison. Donc, il y a des solutions comme ça et on fait la même chose dans l'Outaouais moment. Donc, pour être capable de régler certains problèmes pour désengorger les urgences et aussi arrêter, parce qu'il y a le côté humain, arrêter que des parents ou que des personnes soient obligées de passer 12, 16, 18 heures à une urgence pour voir un médecin. C'est pas normal, là, parce qu'il y a un prix à payer à ça, là.
Oui. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui ressort principalement de la ligne téléphonique et de toutes ces démarches lancées par la FIC, c'est que le grand public a besoin de plus d'écoute, plus d'aide, plus d'attention.
Oui, et il y a eu beaucoup de personnes qui ont appelé pour raconter des situations de leurs parents en CHSLD. Et on sentait beaucoup de détresse dans ces appels-là. Par exemple, des gens qui nous disent, ben moi, j'essaie de m'organiser, on s'organise pour être là au moment des repas parce que les cabarets doivent rester une heure seulement sur l'étage. Ma mère n'a pas le temps de manger, puis les cabarets sont ramassés, ils n'ont pas le choix. Ou bien la nourriture, ils ont changé. Elle aimait ça, le fromage, maintenant, pour des raisons budgétaires. On leur donne une tranche de fromage jaune qu'elle aime pas. Bon, c'est des choses comme ça, mais pour ces personnes-là qui sont dans des institutions qu'on appelle les CHSLD, si leur plaisir dans la journée, c'est de manger et qu'elles n'ont plus ce plaisir-là, bien, c'est des gens qui sont menacés de dénutrition. Puis on est quand même au Québec et on parle de personnes âgées qui ont contribué à construire cette société-là.
Mm-hmm. Bon, Régine Laurent, ce qu'on souhaite, c'est que le dialogue soit ouvert avec le ministre Barrette, avec le premier ministre également.
Oui.
Bien sûr, on le dit souvent, l'expression une bouchée d'éléphant à la fois. Là, selon vous, c'est quoi la priorité?
La priorité, c'est de mettre des solutions pour aider à l'accessibilité dans le réseau de la santé. Et je vous dirais qu'il y a aussi, de façon globale, je vous dirais, de regarder le réseau de la santé comme un investissement, comme quelque chose qui peut être beaucoup plus humain et de permettre que ce soit plus humain dans le réseau de la santé.
Et vous serez là pour créer ce dialogue? dialogue-là, oui, parce que c'était également un objectif d'ouvrir la discussion avec le ministre Barrette. Bon, est-ce que vous êtes satisfaite hier de l'entente qui a pu être conclue du côté de l'Outaouais? Pour vous, est-ce que c'est un indice que le dialogue est ouvert?
Disons que c'est deux dossiers complètement différents,
bien sûr.
Mais je pense qu'il y a une compréhension, puis il y a eu beaucoup de mobilisation aussi dans l'Outaouais, vraiment autant des professionnels en soins que de la population, que des groupes communautaires qui ont fait valoir les conséquences si ce statut particulier n'était pas reconduit. Alors, je suis vraiment très contente qu'on ait pu vraiment avoir cette entente-là avec le ministre, et on va signer dans quelques jours. Donc, le ministre a vraiment reconduit de façon intégrale ce statut particulier l'Outaouais, ce qui va empêcher que de ce que j'ai connu il y a 15 ans ou 20 ans, qu'il y a plein de professionnels en soins qui aient travaillé en Ontario. Ouais. Et là, c'est la roue qui tourne. Là. Ça veut dire, pour celles qui restent, plus de temps supplémentaire, plus de main-d'œuvre indépendante qui coûte cher, plus de populations qui vont se faire soigner en Ontario. Donc, c'est ça là, qu'on essaie d'arrêter. Là.
Et l'épuisement de nos professionnels aussi.
Absolument.
En terminant, Régine Laurent, de façon très, très concrète, là, vous dites demain, le bilan sera rendu officiel, le bilan de cette ligne d'aide de la FIC. Mm-hmm. Comment vous allez procéder? Vous allez faire un rapport? Vous allez l'envoyer?
Oui, on va faire un point de presse et vraiment donner les grandes lignes là, de la compilation.
Et on surveille ça de quelle façon, nous, de notre côté?
Oui, bien, il y aura un avis de convocation qui va partir cet après-midi, puis il y aura toutes les indications là-dessus.
Bon, on suivra ça de très, très près. Et on souhaite, bien sûr, ce changement-là, là, suite à l'écoute des demandes de la population, Régine Laurent.
Oui, on le mérite. La population du Québec mérite ça. Vraiment des soins plus humains et des soins à l'échelle humaine, absolument.
Régine Laurent, merci beaucoup. On suivra ça de très, très près.
Merci à vous. Bonne fin de journée.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Eh bien, c'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. On le rappelle, hein, vous pouvez nous réécouter en rediffusion 17h, canalm.vusezvoix.com. Et puis, ben, demain, pour faire suite un petit peu à la première entrevue avec Mohamed Ghoul, on recevra la sociologue Monique Desiproux, elle qui est aussi musicienne. Elle est auteure d'un livre qui s'appelle « Pourquoi la musique, son importance dans la vie des enfants », édité aux Chutes Sainte-Justine. Donc, on pourra continuer cette discussion sur l'importance de la musique dans la vie des enfants, sur leur santé et sur leur développement. Et on recevra aussi Olivier Lajoie des Vélos Trivel. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir été là. C'était Mathieu Tessier à la mise en onde, Christiane Campagna et Hilary, parce que ben oui, j'ai buté sur son prénom comme à peu près tout le monde ici. Christiane Campagna à la recherche, Marianne Paquette au micro. Et ben, portez-vous bien, on se retrouve demain, nous. Bye-bye.